que tu as remarqué, je suis lisible.
Oui, c'est un peu comme c'était des notes manuscrites, oui, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. Donc, vas-y, tu peux y aller.
D'accord, très bien. Alors, au début, je n'ai pas, comment dire, plongé dans des recherches. J'ai directement, spontanément, je me suis directement posé des questions, une petite réflexion sur le sujet. Et c'est seulement après que j'ai pris un bouquin, un Larousse d'ailleurs, Dictionnaire de la philosophie, où j'ai un petit peu plus, on va dire, je ne sais pas si c'est le mot, édulcoré, non, c'est pas ça, c'est pas le terme, enfin, où j'ai un peu plus approfondi, mis des choses sur le sujet. Voilà. Alors, leur idée principale, la liberté est-elle négociable? Alors, évidemment, première question, une définition de liberté, d'accord? Alors. Donc, la liberté, effectivement, c'est une notion dans Larousse, hein, quand même. J'ai pris quand même la définition du Larousse ce coup-ci. Notion qui se définit comme l'absence de contrainte, positivement comme l'état de celui qui fait ce qu'il veut. Voilà. Alors ensuite, j'ai quelque chose qui m'a surpris, c'est au niveau politique, une réaction, on va dire. Hein. La liberté ne se donne pas, elle se prend. C'était le printemps arabe. Hein? Alors, je trouve que c'est un sujet qui est fort aussi, ça. Voilà. Alors, faut-il restreindre les libertés? Alors, c'est la question. L'homme est-il vraiment libre? Peut-on choisir sa liberté? Alors on va se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas toujours possible de choisir sa liberté parce que d'abord, ça a un prix hein, d'être libre. Et puis, on a tous les besoins essentiels aussi à satisfaire. La liberté non plus n'est pas la même pour tout le monde. Il y a aussi une règle qui dit que la liberté des uns s'arrête quand elle empêche la liberté d'autrui. Et ceux qui ont choisi d'être libres sont-ils heureux? Donc, quels sont les buts de la liberté? Alors, bien sûr, il y a aussi tous les obstacles à la liberté. Et je dirais que la finalité, c'est finalement gagner sa liberté en autonomie, en responsabilité, un art de vivre ou peut-être à inventer, et notamment après le confinement. Voilà. Pour résumer.
Et sur l'aspect, justement, négociation.
Oui, sur l'aspect négociation.
Ah oui.
Oui, c'est le sujet, c'est vrai.
Ça fait... Ah oui.
C'est le sujet.
Effectivement. Oui. Ben, je me suis un peu planté, on va dire. Hein.
Ah. Oh là. Le bûcher.
Ouais.
Bon, c'est pas grave. Mais donc, tu peux éventuellement quand même nous en parler, même si tu n'as pas
parlé. Pour la négociation, oui.
Sur le travail que tu as fait sur la liberté, comment tu peux établir une relation avec la négociation, justement?
Mm-hmm. Ouais. Ben, la négociation, effectivement, c'est parce qu'on vit en société et qu'on n'est pas tout à fait… on est quand même dépendants les uns des autres. Nous sommes un animal social. Mm-hmm. Et donc, il faut faire des concessions. Faire des concessions, donc, effectivement, pour vivre ensemble.
Et donc, ça nous ramène à la première définition que tu avais donnée, hein, c'est-à-dire la liberté comme une vie sans contrainte. Or là, tu nous dis, la négociation, finalement, introduit des contraintes. Donc là, on voit bien que l'articulation, la contradiction, elle va se trouver là. C'est-à-dire… Oui. La définition qu'on va prendre de la liberté par rapport à la contrainte, en fait. C'est un sujet dont on a déjà parlé, d'ailleurs. Mais comment articuler la liberté et la contrainte?
Oui, je note en même temps, voilà. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, et effectivement. Et justement, le problème, c'est que quand on s'engage, quand on fait une action, automatiquement, ça a des répercussions sur notre environnement, ça a un impact sur les autres. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette phrase qui dit « la liberté des uns s'arrête quand elle empêche la liberté d'autrui », enfin, ou un autre terme. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on coupe vraiment les ailes de la liberté? À un moment, l'individu, il y a la place de l'individu, puis la place de la collectivité aussi. On ne peut pas vivre, voilà. Et puis il y a aussi tous les obstacles à la liberté, qui sont notamment la dépendance matérialiste, ou pas, la religion, le pouvoir politique, les autres, et puis soi-même aussi. On peut être un obstacle pour soi-même dans la liberté.
Intéressant.
Oui. Et puis on peut choisir aussi il y avait juste avant envoyé aussi un article, c'était sur sécurité et liberté. Les gens qui ont vécu un peu en confinement, notamment, ben nous tous, on était un petit peu en cocon, dans un cocon, on était en sécurité, on pouvait se sentir en sécurité, mais par contre, il y en a d'autres qui se sont peut-être sentis en insécurité. Ça dépend du confort qu'on a, aussi du confort matériel qu'on a. Si on a un salaire, si on a quelque chose qui nous tombe une retraite, ou bien si effectivement, mais les gens qui ont été en chômage partiel ou les gens qui étaient commerçants et qui n'avaient aucune activité, étaient en insécurité, donc ils n'avaient plus de liberté non plus. Voilà, bon, j'arrête de parler là-dessus.
Ok. Bien merci. Donc, bah, donc il y a Guy qui a levé la main et puis après il y aura Annie. Donc vas-y Guy.
Oui, j'essaie de comprendre un petit peu. Comment dire, ce qu'on peut ressortir de cette phrase, la liberté n'est-elle négociable? Je ne me vois pas vers qui je vais me diriger pour dire, oui, je veux commencer à négocier sur ma liberté, l'État, je ne sais pas. Il y a une formule que j'ai entendue une fois, quelqu'un disait, l'homme libre choisit ses contraintes, et j'aime beaucoup cette expression, elle est bien dans ce sujet. J'ai lu un ouvrage récemment qui s'appelle Génération, j'ai le droit. Et donc, ça nous parle un petit peu de notre époque où un certain nombre de personnes, eh bien, pensent qu'ils n'ont que des droits et qu'ils n'ont pas de devoirs. Hein. Et tous ces gens qui sont dans un individualisme forcené, eh bien, comment dire, ils entravent un petit peu notre liberté de chacun. Et là, on a parlé de couper les ailes. Je pense qu'ils coupent les ailes à la colombe. Et je crois que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, de cette forme d'individualisme. On met tout dans l'individualisme, c'est certain, mais je crois que cette forme de liberté, elle est toujours à sauvegarder, et plus particulièrement celle qu'on va sûrement aborder, c'est la liberté de conscience.
Alors, j'étais en train de chercher un truc là dans un livre. Donc Annie, je te donne la parole. Oui. Ton micro est coupé, Annie.
Dans le sujet d'aujourd'hui, la liberté est-elle négociable? J'ai toujours envie de négocier les termes, là, pour le coup, qui seraient plutôt le cadre de la liberté est-il négociable? Parce que j'ai l'impression que la liberté elle-même, elle est de. Enfin. Guy parlait de la liberté de conscience. Enfin, on peut toujours l'avoir, cette liberté de conscience, quel que soit le cadre dans lequel on est, même dans une dictature, on peut quand même avoir une liberté de conscience. Enfin, on ne peut pas nous obliger à penser des choses qu'on n'a pas envie de penser. Donc, pour moi, la liberté, cette liberté-là, elle est de fait. C'est pas le terme négociable va pas non plus avec, mais enfin elle est là. Enfin, c'est pour moi c'est factuel. Par contre, le cadre dans lequel on exerce cette liberté, ça peut être négociable. Enfin, négociable encore une fois, le terme n'est pas forcément pour moi approprié parce que ce serait plutôt dans le sens où on choisit. On peut choisir ou s'adapter. On peut choisir de ne pas rester quelque part parce que les conditions de notre liberté ne sont pas ce qu'on souhaite. On peut être obligé d'être quelque part et de faire avec et de construire une autre façon de vivre avec ces contraintes. Mais voilà. Donc pour moi, c'est pas la liberté elle-même qui est négociable puisque ça. De fait, on est libre de conscience, mais par contre, le cadre dans lequel on vit cette liberté, lui, serait davantage adaptable, on va dire.
D'accord. Je voulais revenir sur sur deux points. Déjà, le premier, alors, ce que disait Guy tout à l'heure, sur la liberté et les devoirs. Alors, on le sait rarement, dans l'histoire des déclarations des droits de l'homme en France, il y en a eu plusieurs, même au cours de la Révolution française, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une en 95. En 95, c'est une déclaration des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'il y avait elle est du 22 août 1795. Alors, pour ceux qui vivent encore dans le calendrier révolutionnaire, j'en connais un ici. C'est le 5 Fructidor, Gilles. Donc le 5 Fructidor 1795. Donc l'an 6, c'était une déclaration, de l'an 3, c'est en 80, le calendrier révolutionnaire commencé en 92, donc déclaration de l'an 3, du 5 Fructidor de l'an 3, et donc il y avait des droits et des devoirs. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'a pas conservé, c'est pas celle-là qu'on a conservée dans notre histoire. Donc c'est intéressant de comprendre pourquoi on a supprimé cette notion de devoir. Alors, après, l'autre question, c'est celle, c'est en effet celle des contraintes. Alors, ça, c'est vraiment, le point clé de la notion de la liberté, parce que où on considère que la liberté, c'est une absence de contraintes, et en effet, on aboutit à une sorte d'aporie, c'est-à-dire que c'est pas possible, c'est-à-dire que l'absence de contraintes est absolument impossible. Ne serait-ce qu'il y a des contraintes physiques, biologiques. Je me souviens un jour au phare, il y a quelqu'un qui a dit « mais je ne suis pas libre parce que tous les jours, je dois manger ». Oui, c'est une contrainte biologique. Donc, on voit bien, même dans la société, une espèce de volonté de s'abstraire de la biologie. On voit ça dans des tas de combats, que ce soit même dans le combat féministe, il y a un certain nombre de féministes qui disent « non, mais… la biologie, le fait que les femmes soient porteuses d'enfants, enfin qu'elles aient cette fonction biologique, ça compte pas, c'est pas important. Et puis on peut changer de sexe, et puis etc., etc. Donc il y a une volonté de s'abstraire de s'abstraire des contraintes de la biologie, parce que ça fait partie de notre liberté. Mais on sait très bien, malgré tout, on ne peut pas échapper à la loi de la pesanteur. De toute façon, il y a des contraintes. Et puis, comme l'a dit Roger, le simple fait de vivre en société est une contrainte. Donc, de deux choses l'une, on veut dire que la philosophie, la liberté, c'est de vivre, pouvoir vivre sans contrainte, et on arrive à une espèce d'impossibilité. Ou alors, apprendre à la définition de Sartre, qui dit, mais de toute façon, on a toujours des choix, on peut toujours faire des choix, donc on est fondamentalement libre, avec cette phrase un peu provocatrice où il disait, mais on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation, parce qu'on avait des vrais choix à faire, et que donc c'est ces choix-là qui, en quelque sorte, supportaient ou justifiaient notre liberté. Donc en fait, on voit bien que on est toujours confronté à ce problème de la contrainte. Alors, je voulais partager avec vous un document. Alors, attendez, tac. Voilà. Qui est de notre déclaration des droits de l'homme, donc de celle de 89. Où on voit que. Alors, où il parle de cette phrase classique un peu, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, c'est un peu ça. Donc, l'exercice des droits naturels, la liberté est un droit naturel dans cette déclaration. C'est un des fondements du XVIIIe siècle, de cette idée de droit naturel, n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et je trouve que c'est là que c'est intéressant parce que la loi, c'est justement quelque chose qui est négocié. C'est pour ça que je me disais, c'est intéressant d'introduire ça. On peut dire, non, c'est pas négocié, c'est discuté à l'Assemblée, etc. Mais malgré tout, il y a quand même cette idée, comme je disais avant, de délibération et de négociation. Si on veut. Et puis, autre point sur la liberté Alors, non pas, oui, en effet, de conscience, parce que la liberté de conscience, comme l'a dit Annie, elle est tout le temps là. On ne peut pas empêcher quelqu'un de penser ce qu'il a envie de penser. Ça, c'est... D'abord, il faudrait le savoir. On n'est pas dans la tête des gens. Par contre, ce qui est en général interdit, encadré, etc., c'est la communication des pensées. Hein, c'est la liberté d'expression, ce qui est différent de la liberté de penser. Et qui, elle, en effet, encore une fois, la liberté de penser, elle se passe dans notre tête, donc elle est intérieure. Donc, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Donc, c'est intéressant de voir que déjà, dès 1789, il y avait déjà cette idée de borne à la liberté. Toutes les libertés qui sont décrites, bon, j'ai pris ces deux exemples, on pourrait en regarder d'autres, mais toutes les libertés qui sont décrites dans la déclaration de 1789 sont bornées. Alors, les bornes ne sont pas fixes, elles disent, les bornes seront déterminées par la loi. Et donc, par la négociation. Donc, ce qui peut être intéressant après, c'est de voir justement qu'est-ce qui peut être négociable, dans quelles conditions, etc. C'est, je pense que mais on voit bien qu'en tout cas, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a cette idée de la négociation de la liberté. Je m'arrête là. Donc, Guy, vas-y.
Par les lois, chaque peuple définit sa liberté. Les droits et devoirs, par exemple, aux États-Unis, avec certains amendements, les droits constitutionnels américains ne sont pas les mêmes que chez nous. De fait, le droit de porter une arme, par exemple. C'est négociable, il faut demander un permis. Et je cherchais un cas où véritablement, cette liberté faisait l'objet de négociations. Alors, on a un exemple très flagrant qu'on connaît tous, ça a été la GPA et la PMA, qui font l'objet de discussions. On en a beaucoup parlé avec le Comité national d'éthique, donc c'est encore en discussion. La première sur la PMA n'est pas passée, mais ça fait l'objet de débats. Donc, c'est une liberté qui est individuelle, en même temps une liberté qui est négociable, mais négociée par tous, puisqu'elle est négociée par les lois. Donc, c'est un exemple de liberté négociable entre les gens qui disent non, le vivant ne devient pas marchandise, et puis d'autres personnes qui disent mais j'ai le droit à un enfant. Le droit à un enfant a été réclamé. Donc, on a beaucoup débattu de cela. Donc, c'était déjà une point. Et puis, je voulais dire aussi, la liberté de penser a quand même une autre acception dans le terme, elle n'est pas seulement la liberté de penser pour soi dans sa tête, elle est aussi la liberté d'exprimer sa pensée. Oui. C'est pour ça que nous avons eu des philosophes, des érudits libertins, qui à une époque ont eu beaucoup de problèmes, qui étaient quand même les précurseurs des Lumières. Donc on a aussi cette définition. Et puis je reviens aussi, la liberté négociable, elle est négociable en soi-même. Je repense à la formule de Kant qui nous dit « nous sommes d'autant plus responsables que nous sommes libres ». Et c'est parce que nous sommes libres que nous sommes responsables. Donc, elle est négociable déjà avec soi. Voilà.
Oui, sur l'expression de la pensée, c'est exactement ce que dit l'article 40 de la déclaration que je veux partager avec vous. C'est-à-dire qu'on parle bien de la libre communication des pensées et des opinions, qui est un des droits. C'est-à-dire, c'est pas la pensée qui est une liberté, qui est donc un droit. C'est la communication des pensées, donc c'est l'expression, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression aujourd'hui. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Oui, alors, dans ce que tu dis, par exemple, la GPA et l'autre, là, je ne sais plus,
PMA.
PMA, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a besoin de délibération, et là, on retombe sur, comme je disais au début, sur Aristote, c'est parce qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de moyen purement rationnel de dire si ça doit être autorisé ou pas. C'est pas une décision qui est de l'ordre du rationnel. Il n'y a pas d'enchaînement logique qui peut mener à la décision on va autoriser la GPA ou pas. c'est des raisons morales, éthiques, des raisons, alors après, plus ou moins religieuses, etc., mais enfin, bon, qu'on peut regrouper dans la notion de morale. Et puis après, en fait, en pratique, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va déterminer par la loi, c'est les conditions d'application d'une telle mesure, en fait. Hein. C'est rarement de dire oui, non, quoi. C'est oui dans telle condition, non dans telle autre, etc. Enfin, bon, c'est pour ça que les lois sont si compliquées, quoi. Parce qu'on ne se contente pas de dire oui ou non, quoi. Bien, il va falloir... Annie, oui, attention, ton micro est coupé.
Oui, ce que tu réponds à Guy par rapport à la communication, c'est aussi vrai pour ce que tu disais sur la liberté, qui tu dis elle est négociée, elle apparaît négociable, mais c'est pas la liberté qui est négociable, c'est les bornes. C'est pas la même chose.
Oui, alors, il y a deux façons. Ça dépend. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Enfin. C'est-à-dire que on considère, si la liberté est considérée comme de pouvoir vivre sans bornes, bah forcément, à partir du moment où on met des bornes, la discussion sur les bornes revient à discuter de dire est-ce que ma liberté, oui, non, elle est négociable. Mais après, je suis d'accord, si on considère que la liberté, en particulier la liberté politique, hein, la liberté définie dans le cadre de la société, si on considère que cette liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, en gros, à l'intérieur d'un certain nombre de contraintes législatives, à ce moment-là, en effet, ce n'est pas la liberté elle-même qui est négociable, c'est les bornes. Oui, je suis d'accord. Bon, c'est un peu…
Alors après, oui, non, mais enfin, parce que…
On ne t'entend plus là.
Question oui. Des bornes. Non, j'ai pas entendu. Vous m'avez entendu ou pas?
Non.
Pour moi, ce qui est intéressant à discuter, c'est la… C'est la négociation, le fait de pouvoir négocier les bornes, pas la liberté. Parce que là, par exemple, dans le cas de la GPA, on ne peut pas empêcher… physiologiquement quelqu'un de faire un enfant et de le donner à quelqu'un d'autre, enfin, ça peut, on peut l'imaginer. Là où ça va coincer, c'est que effectivement cet enfant, dès qu'on va vouloir l'inscrire quelque part ou n'importe, enfin, toute la responsabilité qu'on doit pouvoir lui administrer en tant que mineur, la personne qui va élever l'enfant, si c'est pas elle qui est sur l'acte de naissance, et ben effectivement, elle ne pourra pas l'exercer, son droit. Donc, mais le droit en soi de faire un enfant et de le donner à quelqu'un, c'est pas, enfin, ce droit-là, il existe et enfin, en d'autres temps, ça s'est fait, quoi. Donc, après, c'est une question d'être d'accord avec les lois. Enfin, voilà. Moi, j'ai connu une de mes collègues qui a adopté une petite fille de cette façon-là. Alors, je sais pas. À l'époque, on parlait pas de GPA et ainsi de suite. Mais là, oui, ben, je lis ce que Maggie. Il n'y avait pas d'aspect financier. C'était un cadeau. C'est-à-dire que c'était une petite Tahitienne qui a été remise en cadeau à ma collègue. Et ça s'est réglé administrativement parlant, je ne sais pas trop comment, peut-être qu'ils ont dû forcément se contraindre à la loi, mais n'empêche ce côté liberté par rapport à des actes aussi importants que ça. De fait, c'est pareil, ça y est, c'est encore une fois, c'est les bornes qui sont négociables, c'est pas la liberté elle-même, elle y est et ça se pratique. En plus, enfin, là, on parle de notre liberté en France, mais j'en sais rien, moi, de ce qui se passe dans des tribus où il n'y a pas les lois, les mêmes lois, enfin, peut-être les libertés ne sont pas les mêmes, quoi, je sais pas.
Oui, bien sûr. Enfin, après.
Donc moi, c'est une question de borne, quoi. C'est tout. C'est pas une question de liberté en soi.
Yannick, t'as reçu un colis là. Tu vois, de mon bureau, je vois ce qui se passe dans la rue. Oui, oui, bon. Tout à fait. Alors, Guy, tu dis la GPA est une convention avec aspect financier. Bah, justement, je pense que dans les projets français de GPA, il n'y aura pas l'aspect financier. Enfin, l'aspect financier sera interdit. Mais c'est vrai que dans la plupart des autres pays, mais c'est là qu'on voit, bon, on a perdu, hein, je pense, l'illusion des droits naturels. La déclaration de 89 parle de droits naturels. Je pense qu'aujourd'hui, on sait bien que le droit est forcément une construction sociale et politique. Donc, en effet, il y a, selon les régions du monde, selon les pays, ce genre de droit sera très différent. Je trouve l'un des cas intéressants de la liberté, justement, c'est la liberté d'expression. Parce que il est vraiment au fondement, c'est un peu ce qui a motivé, en quelque sorte, toute la philosophie des Lumières. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une des libertés qui est les plus contraintes, hein, en particulier en France, avec, on sait, toutes les lois mémorielles qui viennent, il y en a de plus en plus, quoi. Donc, on voit bien que la liberté, quand même, pose problème, hein, c'est-à-dire que... d'accord. Ça fait des merdes, je pense. On s'attend toujours à ce que ça soit... c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que ça soit le pouvoir qui veuille nous poser des bornes à notre liberté, mais dans le cas de la liberté d'expression, on voit que les demandes de contraintes dans le domaine de la liberté d'expression viennent de la société civile. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'associations, de défense de tel ou tel groupement, pour parler généralement, qui veulent interdire l'expression de certaines opinions, alors qu'elles jugent haineuses, dangereuses, tout ce qu'on... Il y a toujours une justification, mais les demandes de restriction de la liberté de penser viennent généralement de la société civile, par le biais d'associations. Donc, comme quoi, cette négociation n'est pas juste entre les citoyens et le pouvoir, par exemple. Elle s'effectue à l'intérieur même de la société. Oui, Guy ?
S'il n'y a pas d'autres prises de parole.
Oui, vas-y.
Oui. Donc, effectivement, elle n'est pas que... Enfin, je dirais, elle n'est pas que au niveau des individus, elle est aussi un élément politique. Depuis 4 siècles, nous avons des philosophes économistes anglais qui ont beaucoup œuvré dans ce sens-là. On a l'expression du laisser-faire, laisser-passer. Cette expression qui existait surtout à une époque où ça concernait le commerce des grains. On n'en était pas quand même aux échanges internationaux. Et cette politique, est un courant politique qu'on va appeler libéralisme économique ou ultralibéralisme, peu importe la fonction, le nom qu'on lui donne, mais qui a toujours œuvré pour plus de liberté d'action dans les négociations commerciales. Donc c'est un courant qui a eu des belles époques et qui, après la guerre, était tombé et qui est relevé avec des gens comme von Hayek, qui prévoyait qu'il allait revenir. Et puis, bon, en 1974, cette idéologie, puisque ça reste quand même une idéologie, a repris le dessus. Et ce mouvement, et en fait, ce sont des libertés, c'est une liberté politique qu'on renégocie à chaque élection.
Tout à fait.
Donc, c'était un aspect politique.
Oui, oui. Alors, qui est présente, faut savoir, c'est vraiment intéressant, j'aurais dû le mettre... dans la petite présentation là que j'ai fait, le petit extrait, dans la déclaration de 89, la propriété, ce sur quoi est basé tout le libéralisme économique, la propriété est déclarée un droit inviolable et sacré. Et c'est le seul de tous les droits qui sont énoncés cette déclaration. Le seul droit qui est jugé inviolable et sacré, c'est la propriété. Et en fait, Alors, après, l'expression change, mais le droit à la propriété n'est jamais remis en cause dans aucune des déclarations des droits de l'homme. Il y en a une, il y en a une en 89, il y en a une en 93, donc après, à l'époque du robespierrisme, on va dire, hein, pour simplifier. Puis il y en a une autre en 95, et à chaque fois, il y a toujours le droit. Il y en a quatre, hein, globalement. C'est la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété. Mais la propriété fait vraiment partie des droits fondamentaux. Ça c'est un aspect. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on parle, par exemple, à notre époque d'ultralibéralisme, alors que jamais la liberté économique n'a été autant contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, au XVIIIe siècle, il n'y avait quasiment aucune contrainte sur la liberté, la liberté économique, sur les échanges, etc. C'était vraiment, la preuve, c'est qu'on échangeait même des êtres humains, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a des tas de contraintes, à la fois juridiques par les normes, un système normatif très, très, très contraignant, des contraintes économiques, des taxes, des impôts, enfin des tas de choses. Et c'est maintenant qu'on dit qu'on est dans un système ultralibéral, alors qu'on est beaucoup moins libéral que... au passage du 18 au 19e siècle, quoi, par exemple. Je ne parle pas du début du 18e, mais je parle du passage mi-18e, début 19e, et quasiment tout le 19e, d'ailleurs. Mais en effet, la liberté économique fait partie des libertés qui sont contraintes. Mais en fait, je pense qu'il n'y a à peu près aucune liberté dans une société moderne qui est totale. Il n'y en a pas une. On n'a pas le droit, la liberté de circuler, elle existe, mais on ne peut pas aller partout, on ne peut pas circuler comme on veut, il y a des limitations de vitesse, il y a des tas de contraintes, quoi, hein, tout le code de la route, c'est un ensemble de contraintes qui encadrent la liberté de circuler. La liberté d'expression, il y a toutes les lois qu'on connaît qui encadrent les libertés d'expression. La liberté économique, il y a des tas de lois autour de la liberté économique. Enfin, je veux dire, toutes les libertés sont extrêmement contraintes. D'ailleurs, toutes les lois sont en fait des encadrements de liberté. Hein. Quand on regarde bien, c'est toujours, d'une façon ou d'une autre, une restriction de liberté. Donc, c'est vrai que... Après, donc, la question, c'est justement, qu'est-ce qu'on veut... Je trouve que le sujet devient intéressant si on se demande qu'est-ce qu'on est prêt à négocier ou comment on est prêt à négocier ça. Un peu le débat qu'on avait eu l'autre fois sur la liberté et la santé, quoi. Qu'est-ce qu'on est prêt à négocier autour de ce genre de sujet, quoi. Comment est-ce qu'on accepte? Pour quelles raisons, par exemple? Liberté, sécurité. Oui, il y a des tas de... Mais le simple fait que dans notre devise, il y ait trois mots. Donc, il y a la liberté, mais à côté de ça, il y a l'égalité... Et la fraternité, bon, la fraternité, on ne sait jamais très bien comment le traduire politiquement, mais liberté, égalité, déjà, on sent bien qu'il y a une contradiction, quoi. Et puis après, tout ce qu'on veut rajouter, il y a des tas de gens qui voudraient rajouter des choses, hein, laïcité, maintenant on voudrait rajouter l'écologie, et à chaque fois, c'est pour encadrer la liberté. Qui peut nous parler de Fichte? Alors là, non.
Et je rappelle qu'à la Révolution, donc c'était liberté, égalité, propriété,
oui.
Qui au dernier moment a été remplacé par fraternité.
Ce sujet de la propriété. Mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, quand on parlait de propriété, c'est vraiment intéressant. C'est là qu'on voit que le changement d'époque fait changer le regard qu'on peut avoir sur quelque chose. Mais c'était la propriété, c'était de dire que c'était inviolable, c'est ça qui est intéressant, c'est inviolable. C'est-à-dire que la noblesse n'avait plus le droit de violer la propriété des paysans, des bourgeois, on va dire, au sens large, quoi, hein, au sens que ça pouvait avoir au XVIIIe. C'est-à-dire que c'était la protection contre les privilèges de la noblesse. Et maintenant, on voit ça comme disant oui, chacun veut rester dans son petit pré carré, mais. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une noblesse qui avait tous les droits, quoi. Enfin, qui avait le droit de violer les droits des autres, quoi. Et donc, tous ces droits, c'était des protections contre les abus de pouvoir de la noblesse. Hein. Plus de la noblesse, d'ailleurs, que du pouvoir central. Enfin, bon. Oui, alors, Roger, tu veux nous parler de Fichte? Non, moi, je ne connais pas bien Fichte du tout. C'est un qu'ancien, je crois. si j'ai bonne mémoire. Mais là, je ne connais pas bien. Et je ne sais pas pourquoi. Mais Roger, vas-y, prends la parole. Hein. Je veux être libre, signifie que je vais faire moi-même ce que je serai. Ah oui, d'accord. C'est un peu sartrien comme phrase, en fait. Hein. C'est de dire que l'homme est un projet, donc on peut... Oui, on peut, oui, vas-y.
Et moi, je trouve qu'il détonne par rapport... il est un peu décalé par rapport aux autres, je trouve, dans cet aspect philosophique. C'est pour ça que je voulais plus le connaître, quoi, davantage.
Oui, ça fait partie... Il y a quelques spécialistes de Fichte.
Elle est dans la puissance de la liberté, dans la puissance de notre raison, de notre volonté sur notre vie. Après, le problème, c'est qu'il faut que ce soit vraiment des gens qui soient un peu exceptionnels, quoi, qui sortent du lot, quoi. Je vois pas comment on peut être libre si on est dans la mêlée, dans la tempête, on peut pas s'en sortir. Il faut que ce soit au-dessus de la tempête. Est-ce que c'est au-dessus des lois? Ça, c'est encore une autre question.
Oui, mais là, on parle plus d'une liberté, mais c'est intéressant parce que la liberté, elle a plein d'aspects. Hein, on parlait.
Oui, parce que c'est plus une liberté de pensée que davantage que le reste, et une liberté de conscience. Que l'individu, finalement, est tout ce qu'on ne peut pas prendre, c'est un petit peu comme disait Annie, tout ce qu'on ne peut pas prendre, c'est finalement sa liberté de penser et sa raison d'être. Voilà. Et ça, on aura beau tout essayer, je pense que les individus restent des individus à part entière. Et c'est pour ça que par rapport à notre système actuel, on s'en aperçoit. Bon, quand tout le monde a plus ou moins manifesté dans des rassemblements, dans des luttes syndicales, par exemple, hein, mais quelquefois, il peut arriver qu'on soit dans un mouvement et qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu le folklore et que les phrases qui sont dites, les mots d'ordre, correspondent pas finalement à notre liberté à nous de penser, quoi. Et ça, je trouve que c'est grave, mais pour nous en tant que citoyens, quelquefois, on se sent un peu bafoué dans notre liberté.
Dans quelle liberté?
C'est-à-dire qu'il y a des luttes quelquefois où qui sont revendiquées et les gens se retrouvent ensemble, mais finalement ensuite, malheureusement, ça tombe en cacahuète parce que on ne sait plus après dans quelle direction. Il n'y a pas d'unité, quoi, disons, dans le mouvement à ce moment-là.
Ah oui.
Et tout ça parce que justement l'individu ne s'y retrouve pas.
Oui, c'est un peu ce qui s'est passé.
Alors à quoi sert finalement à quoi ça sert la liberté si on manifeste effectivement et qu'on est là comme des couillons, il n'y a pas d'autre mot d'expression, parce qu'on fait rien de cette liberté. Parce qu'on n'est pas capable de s'en servir pour la bonne cause, quoi. Parce que peut-être que les individus, finalement, on leur a empêché ou on les a un peu bâillonnés pour qu'ils ne puissent pas réellement prendre leur vie en main. Voilà.
Annie,
est-ce que ça... Oui. Voilà.
Pardon.
Oui.
T'as fini, Roger ou...
Oui, c'est bon, c'est bon.
D'accord.
Je ne sais pas du coup si c'est le même sujet, mais pour moi, ça rejoint ce que disait Guy, qui rejoignait je ne me souviens plus comment tu avais formulé ça, Guy, mais c'était par rapport au côté individualiste qui on pouvait voir davantage maintenant et qui, je ne sais plus quel lien tu faisais avec la liberté, enfin, c'est peut-être le fait de considérer qu'on est seul et non pas dans une société. Là, ce que dit Roger, pour moi, c'est un petit peu du même ordre. À partir du moment où on est nombreux, forcément, la cause qu'on va défendre, ça ne va pas être forcément exactement celle précisément qu'on a envie de défendre, mais ça sera un tronc commun parmi tous les gens qui sont là. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi accepter de ne pas tout défendre, forcément, ce qu'on a envie de défendre, mais une partie à considérer que le groupe soit porteur d'un minimum commun. Mais pour moi, ça rejoint je ne sais pas si on est toujours dans le thème là. Pour moi, c'est plus une question de soit dans un groupe. Comment est-ce qu'on se positionne dans un groupe et oui, remarque, ça va avec la liberté de penser, mais on ne peut pas tous, on trouvera jamais, même à deux, de penser exactement la même chose. Donc, ça veut dire qu'on ne peut jamais, on peut jamais aller défendre quoi que ce soit collectivement dans ce cas. Enfin, je ne sais pas si c'est le même sujet, en fait.
Bah, c'est partiellement le même sujet, mais je me souviens qu'à Filoni, il y a longtemps, on avait fait un sujet, c'était « Peut-on être libre en société ?» qui justement mettait en avant cette articulation qui existe entre les libertés individuelles et puis la liberté, enfin les contraintes de la vie collective, hein, ne serait-ce qu'au sein d'une famille. Forcément, quand on part en vacances, ensemble, après on va se mettre d'accord, est-ce qu'on fait telle sortie ou telle autre, hein, est-ce qu'on va au parc d'attractions ou visiter une cathédrale, et puis quand on a des adolescents, on voit ça tout le temps, ils sont « ah oui, alors on peut rien faire, on n'est pas libre dans cette famille, parce qu'en fait on n'est pas libre parce qu'on fait pas ce que moi je veux, quoi, hein. » Et ce qui ramène à la question, enfin au problème posé par Roger, c'est-à-dire d'une part, en effet, quand on fait partie d'un mouvement collectif, eh ben, quelque part, on restreint soi-même sa liberté. C'est-à-dire que l'engagement politique est une forme de restriction de sa liberté parce que de toute façon, on va devoir faire des compromis avec les autres, etc. Et ça, je pense que tout le monde l'a vécu. Et c'est illustré dans une chanson de Georges Brassens qui s'appelle « Le pluriel », hein. C'est celle où il dit « Dès qu'on est plus de quatre, on est une bande de cons ». Mais en fait, dans les couplets de la chanson, il illustre en fait à chaque fois des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire, il dit bah oui, la cause était belle. Bon, il y en a un où il dit ça, la cause était belle, mais en fait, comme on était beaucoup, à la fin, c'est devenu un peu n'importe quoi. Hein. C'est un peu ce que décrit Roger. C'est-à-dire qu'au départ, on part sur des belles idées, etc. Puis comme on est beaucoup, puis il faut dégager une position commune. Il y a eu deux mouvements récemment qui n'ont pas voulu dégager de position commune. Hein. Ça a été Nuit debout et les Gilets jaunes, dans les deux cas, alors des mouvements assez différents justement, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux ont refusé la représentation et la détermination d'une position commune, et que finalement, qu'il n'y a pas débouché sur grand-chose. Donc c'est très compliqué, parce que, définir une position commune, définir des représentants, c'est de l'efficacité, ça permet d'être représenté, de pouvoir négocier des choses, etc. Mais en même temps, chacun a l'impression que ça restreint sa liberté. On n'y échappe pas à cette tension qui existe forcément dans une société entre les aspirations individuelles, la liberté de penser individuelle, en effet, hein, on a ses propres idées, etc. Machin, et puis, après, l'action collective, et là, c'est là que les questions se posent, quoi. Le truc qui me semblait intéressant aussi, quand on voyait, quand on a un peu discuté, il y a eu deux fois... Sur la liberté de penser, parce qu'en effet, je disais tout à l'heure, elle est comme ça se passe à l'intérieur de nous, forcément on l'a, quoi. On peut penser ce qu'on veut dans notre tête, on a le droit de penser ce qu'on veut dans notre tête, enfin c'est même pas qu'on a le droit, c'est que personne ne peut nous en empêcher, quoi. Et c'est là qu'on voit, alors autant la liberté de communication peut être restreinte par l'État ou la collectivité au sens large, etc., hein, la bien-pensance, la pensée unique, enfin tout ce qu'on veut. Autant la liberté de penser, et c'est là que ça devient peut-être un peu plus intéressant, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes notre propre obstacle à notre liberté de penser. Hein, c'est-à-dire qu'on va s'interdire de penser certaines choses, on ne va pas faire l'effort de... Et tu disais, Roger, c'est pas donné à tout le monde, et c'est vrai. On oublie, par exemple, dans le petit texte là, de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?» C'est là qu'il dit sa paire à Odé. Là. C'est là, « Aie le courage de te servir de ton propre entendement. » Moi, le mot que je trouve intéressant, c'est le mot « courage ». C'est-à-dire que se servir de son propre entendement, donc de sa propre raison, d'avoir la liberté de penser, Kant nous dit « Attention, il faut du courage pour le faire. » On a le droit de le faire, personne ne peut nous empêcher de penser, de nous servir de notre propre entendement. Mais il avait conscience que pour ça, pour faire ça, et donc c'est ce que tu disais, Roger, en disant c'est compliqué, hein, de faire ce que nous dit Fichte, de faire de nous-mêmes ce qu'on veut, quoi. Et bien pour ça, il faut du courage. Et en effet, je suis assez d'accord avec ça, hein. On en parlait un peu juste avant, sur, par exemple, Nietzsche qui dit « pour être un esprit libre, il faut être un esprit probe, hein, faut avoir de la probité, donc il faut avoir le courage de cette probité ». Et puis le courage d'être, de déranger, hein, on en parlait juste avant, c'est marrant, de déranger, quoi. C'est-à-dire que quand on a une position un petit peu particulière, bah, les autres nous regardent de travers. Hein. Là encore, je vais me référer à Brassens, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Quoi. C'est, voilà, c'est, dès qu'on n'est pas dans des pensées classiques, des schémas de vie classiques et tout, même si on ne dérange personne, même si on fait de mal à personne, on va déranger. Donc, on voit que la liberté est toujours quand même sous le regard des autres. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ah, Guy, vas-y, hein, de toute façon.
Ouais. Oui, je reviens sur l'individualisme. On en a parlé, Annie l'évoquait de nouveau. Ouais. Je pense que l'individualiste, lui, ne négocie pas les droits. Il s'arroge des droits. Il ne les négocie pas, il s'arroge des droits. Donc, il est tout à fait. Il se met un peu en dehors du mouvement. Et comme et je reviens un petit peu sur ce que Pascal nous a dit, effectivement, sans arrêt, on négocie. On n'arrête pas de négocier, même dans un couple. Mmh. On négocie. Et donc, j'ai repensé, à un moment donné, j'ai repensé à une fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à négocier entre l'agneau et le loup, hein. Et c'est dans une lecture récente d'un philosophe espagnol qui s'appelle Fernando Savater, il évoque la situation où, après le franquisme, l'Église a perdu un petit peu de ses prérogatives dans l'enseignement. Et donc, il dit ceci, où est-ce que je crois que je l'ai noté ? Oui, quand je suis faible, je réclame la liberté au nom de vos principes. Et quand je suis fort, je vous la refuse au nom des miens. Ce qui veut dire que quand l'Église était forte, elle refusait l'enseignement laïque, et maintenant qu'elle n'est plus, elle n'a plus la position dominante qu'elle avait, eh bien, elle a perdu un certain nombre de prérogatives et elle réclame des droits qu'elle aurait perdus. Donc, j'ai bien aimé cette approche. Voilà. Et puis oui, j'ai pensé, on a parlé de Sartre tout à l'heure, j'ai pensé à une pièce de théâtre de Sartre qui s'appelle Les Mouches. Et dans cette pièce de théâtre, il y a un personnage, un atride, c'est Égiste, et qui dit à un seul homme, le livre dans la ville, et c'est mon état qui s'effondre, c'est toute la cité qui s'effondre. Il dit, les hommes sont libres, mais ils ne le savent pas, il ne faut surtout pas leur dire.
Oui, oui. Mais c'est ce que dit un peu aussi après la Boétie, hein, dans le traité de la servitude volontaire, en fait. Hein, c'est... levez-vous, arrêtez d'obéir et ça y est, vous êtes libre. Sauf que on se rend bien compte que c'est une position qui fonctionne quand on est dans un régime très autoritaire, etc. Mais en pratique, dans une collectivité, il y a des règles. Il y a forcément des règles. Hein. C'est un petit peu le parce que dans ce qui est intéressant quand même dans le sujet, c'est d'utiliser le mot négociable. Dans l'idée de négociable, c'est qu'on dans l'idée de négociation, c'est qu'on donne quand même à l'autre la possibilité de dire de donner son avis sur une liberté qu'on veut utiliser, quoi. Hein, c'est-à-dire de dire bon bah je rentre quand même dans cette idée que ma liberté n'a de borne que celle qui assure aux autres membres, enfin, etc. C'est-à-dire que je tiens, dans l'idée de négociation, il y a l'idée que, en effet, l'autre a quelque chose à dire sur l'exercice de ma liberté. Alors que si, en effet, par exemple, il y a Frédéric Gros, hein, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Désobéir », hein, qui fait un peu l'éloge de la désobéissance civile. Le problème que pose la désobéissance civile, c'est un exemple que j'ai pris, enfin que je prends souvent quand je parle de ça avec certaines personnes. Je dis, ben dans ce cas-là, la fraude fiscale, c'est un exemple de désobéissance civile. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, bah, très bien, ceux qui fraudent le fisc ont raison de le frauder. Puisqu'après tout, ils jugent qu'on paye trop d'impôts et ils disent, bah, moi, j'en paierai moins, je vais me débrouiller, je vais tricher pour en payer moins. Ah ben bah non, là, ce n'est pas normal. Ah bah alors, vous voyez, le problème, c'est qu'on est d'accord pour justifier ou pour autoriser la désobéissance, mais juste pour des choses avec lesquelles on est d'accord. Hein ? Donc, on en revient. Donc, faire de la désobéissance civile un principe, c'est compliqué en société. Parce que sinon, c'est les fondements même de la société qui s'effondrent. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. C'est l'anarchie, dans ce cas-là, le moins positif. Quoi, hein. Oui, Annie ?
Oui, quand je comprends bien quand tu parles de négociable dans ce sens-là, tu as raison, c'est le vrai sens du terme négociable. Je n'ai pas le sentiment que ce soit que la façon dont on l'emploie actuellement, ça soit dans le sens de j'écoute ce que l'autre a à me dire et lui va écouter ce que j'ai à lui dire et puis on va finir par trouver un accord commun. Ça c'est certainement le terme, la définition. Normal du mot négociable. Là, quand on dit que quelque chose n'est pas négociable, par exemple, Alina là, qui dit aujourd'hui les manifestations interdites ne sont pas négociables, ça, c'est dans le sens de on va aller quémander quelque chose à un gouvernement qui est tout puissant. Donc, le mot négociable n'est pas. Il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité là-dedans. C'est le gouvernement qui a les rênes, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Alina, elle pourra dire si c'est ce qu'elle a voulu dire. Mais moi, je l'entends. Actuellement, le gouvernement a les rênes. Nous, on est trop. C'est la lutte du pot de fer contre le pot de fer, quoi. On va se faire entendre. Et donc, ce n'est pas de la négociation. À partir du moment où ce n'est pas équitable, il n'y a pas de négociation.
Oui, tout à fait. Oui. Qu'on en vient au sujet de dire ce que je disais à un moment donné, c'est quelles sont les conditions de cette négociation, quelles sont, comment ça peut se passer une telle négociation. En même temps, le pouvoir politique, il a ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il est là pour faire appliquer la loi. Alors, on peut trouver qu'il l'applique mal, etc. Hein, mais c'est lui qui a le pouvoir exécutif. Ce n'est pas nous, quoi. On lui a délégué ce pouvoir exécutif, parce que si chacun s'arroge le droit d'interpréter la loi comme il en a envie, mais c'est comme s'il n'y avait plus de loi. Enfin, on tombe toujours dans ce paradoxe, c'est qu'on voudrait soit pouvoir appliquer la loi comme on le voudrait, mais ce droit-là, on ne voudrait surtout pas le donner aux autres. On n'a pas envie que Bernard Arnault décide du montant de ses impôts. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toute la difficulté. On doit toujours penser. C'est John Rawls qui dit ça à propos de l'idée de justice, mais donc on peut l'appliquer tout à fait à cette idée-là. C'est qu'on devrait essayer de penser comme si on ne connaissait pas notre position dans le sujet qu'on pense. Hein, c'est ce qu'il appelle le voile d'ignorance. On doit se placer dans une condition où on a un voile d'ignorance. C'est-à-dire, j'ignore quelle est ma position par rapport au sujet auquel je pense. Donc, je ne sais pas, si je pense à la liberté, n'importe quelle liberté, je ne sais pas, si, je vais y réfléchir, si je pense à la, je sais pas, moi, à la liberté de manifester, bon, très bien, je ne sais pas si je suis d'accord avec les idées des manifestants. Voilà. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait des groupes néo-nazis qui manifestent tout le temps dans la rue, comme ils veulent, partout? D'aller faire des provocations devant les synagogues, etc. Est-ce que ça, j'ai envie de le faire ? Non, je n'ai pas envie. Bon, donc, je suis pour des restrictions à la liberté de manifester. Il faut toujours se dire, essayer d'appliquer le cas à d'autres exemples qui me dérangeraient. C'est là qu'on peut dire qu'on va négocier avec soi-même. Faut déjà un peu négocier avec soi-même dans la liberté de penser. Donc, essayer de se dire, est-ce que le principe là, que je voudrais, il va s'appliquer partout ? Et donc, avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. C'est très facile de faire ça. Hein. Voilà. On veut la liberté totale de manifester, d'accord. Est-ce que je suis d'accord pour que les néo-nazis manifestent comme ils veulent ? Ah ben non. Bon, alors déjà, il faut que je réfléchisse. Hein, faut que j'affine mon point de vue. Vous voyez, c'est un peu le... Et moi, par exemple, je me pose cette question sur la liberté de penser, enfin, de la liberté d'expression. Moi, je suis pour une liberté d'expression quasiment totale. Je dirais même totale, sans doute. Voilà. Est-ce que je suis pour, en effet, que les antisémites s'expriment ou les... Bah oui, je suis pour. Au fond, je suis pour. Voilà. Parce que sinon, justement, on voit bien qu'on est rentré dans une sorte de compétition mémorielle et on n'a plus le droit de s'exprimer sur des tas de sujets de plus en plus. Il y a des gens qui voudraient interdire les climato-sceptiques de s'exprimer. Enfin, on en arrive à des... Voilà, dès que quelqu'un qui... C'est aux États-Unis, par exemple, il y a des mouvements comme ça dans les universités américaines où certains étudiants demandent la liberté de ne pas aller à certains cours s'ils jugent qu'il va y avoir des propos offensants qui vont être tenus dans ce cours-là. Voilà. Donc, il y a des étudiants noirs qui disent « Moi, je ne vais pas aller au cours d'histoire parce qu'on va parler d'esclavage. » Et moi, je vais être offensé juste parce qu'on va me parler de l'histoire de l'esclavage, donc je ne viendrai pas au cours. Ah bah oui, mais alors là, on n'en sort plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On voit bien les dérives aussi des restrictions de la liberté. Donc, c'est très compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est des sujets, il faut faire attention à ce que disait Guy, hein, l'impératif catégorique et l'universalisme. Et puis, il y a aussi ce qu'il appelait la pensée décalée. C'est-à-dire essayer de penser comme si on était quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense que c'est très important quand on parle de liberté. Il faut essayer de sortir d'une sorte d'égocentrisme. Donc, est-ce qu'il y a des prises de parole? Allez-y, hein, parce que là, on n'est pas beaucoup. Vous pouvez presque allumer votre micro et prendre la parole, il n'y a pas de problème.
Ça s'appelle aussi se décentrer.
Oui, c'est ça, se décentrer, tout à fait. Oui,
d'accord. Mais je reviens à la négociation. Dans la négociation, on n'est pas toujours à jeu égal. On repense au loup et l'agneau. Hein. Il y a tout un tas de... Il y a des positions de force où quelquefois, vous allez en négociation, vous savez que d'avance, vous allez perdre. Comment dirais-je, au niveau social, dans les grands groupes, on a vu ça, on a vu des positions où c'est... Où on ferme, où vous baissez vos salaires. Okay. Il y a des situations comme ça, véritablement, où on n'est pas à jeu égal. Il y a des situations où c'est un petit peu « donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure ». Donc la négociation, elle dépend aussi de la position dans laquelle on est à un moment donné. C'est tellement, tellement variable. Je pensais un petit peu aux positions de force, justement, dans la négociation. Est-ce qu'on est en mesure de négocier ses libertés ou pas ? C'est quelquefois, c'est accepter, tais-toi. On est souvent en position de faiblesse pour négocier.
Oui, enfin là, on parlait des négociations sur la liberté, parce que dans le cas d'une négociation sociale, bah, comment dire, c'est pas forcément une liberté. Enfin, toi, ce que je veux dire, c'est une négociation, mais c'est pas une négociation sur la liberté. C'est-à-dire, le fait de rester, enfin, quand. Dans le cas que tu donnes, baisser votre salaire ou on ferme l'entreprise, bon, ce n'est pas un problème de liberté. C'est un problème, d'emploi, de ce qu'on veut. Enfin, d'un côté, il y a la liberté de l'entreprise qui applique son droit de propriété. Donc là, en effet. Bon, mais après, de l'autre côté, c'est plus un droit à la sécurité, en quelque sorte, hein, sécurité de l'emploi, etc. Mais je suis d'accord que dans une négociation, enfin, on n'est pas dans un monde idéal, hein, évidemment. C'est évident que. En même temps, alors, et on voit ça dans certaines négociations, enfin, politiques, etc. Vous savez, on entend souvent cette expression maintenant dans des négociations. On n'a pas été entendu. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir en général n'a pas respecté tout ce qu'on demandait. Mais parce que il y a aussi un problème de légitimité. D'ailleurs, il y a des gens qui représentent, un mouvement ou autre qui regroupe quelques centaines de milliers de personnes. Bon, il a une légitimité liée à ces centaines de milliers de personnes. Il n'a pas la même légitimité qu'un gouvernement. Donc, c'est évident qu'il ne suffit pas de protester pour que ça soit appliqué. Normalement, à ce moment-là, si c'est des comment dire, des décisions qui impliquent toute la nation, ben, il faudrait refaire un vote, un référendum. Enfin, bon, on en arrive à des considérations sur la démocratie directe, qui est très compliquée. Enfin, faut se rendre compte du nombre de lois qui sont votées par an. Il y a des centaines, voire des milliers de lois qui sont votées tous les ans. Donc, si on devait faire la démocratie directe pour toutes ces lois, ça serait absolument impossible. On passerait notre vie à ça, quoi. Or, les citoyens, ils ont autre chose à faire. Donc, c'est des sujets un peu compliqués. Hein. Mais c'est pour ça que, dans l'idée quand on prend les idées des gens en 1700, enfin, au XVIIIe siècle, la loi devait être assez… Enfin, à l'époque, il y avait très peu de lois, quoi. Donc, c'était beaucoup plus facile de dire on va aller voter, on va se discuter, etc. Maintenant, il y en a beaucoup trop, d'ailleurs. Enfin, on sait très bien qu'on fait trop de lois. Mais souvent, on fait des lois parce que il faut communiquer et dire qu'on a fait une loi, quoi. Mais en fait, on sait très bien qu'on fait des lois qui ne servent à rien. Enfin bon, bref, mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent être reconnus. Donc, on fait une loi pour dire on vous a écouté, on a fait une loi. Enfin bref, c'est pas vraiment je suis d'accord que ce n'est pas vraiment des négociations.
Mais non, mais parce que en plus, la négociation, enfin, ça colle pas le mot négociation avec ça. Je veux dire, quand on fait une loi, c'est quelque chose de c'est un écrit fondamental. Enfin, c'est pas de la négociation, c'est un projet commun. Enfin, pour moi, je ne le vois pas en termes de négocier. Enfin, négocier, c'est forcément… Il y a un côté… Donc, le terme ne convient pas. Je voudrais trouver un autre un synonyme. Mais pour moi, ce terme ne convient pas. On négocie un commerce, enfin, quelque chose qui est de l'ordre du commerce et tout. Mais c'est pas, on négocie pas. On peut pas négocier une loi.
En fait, normalement, ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, c'est qu'on délibère. C'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, qui est très aimé, enfin, apprécié par Aristote. En pratique, quand on écoute un peu les débats, en particulier les débats en commission, hein, parce qu'on sait très bien qu'à l'Assemblée nationale, le travail important, il est fait en commission. Il n'est pas fait à la tribune où c'est vraiment des discours très, très politiques qui sont faits. En commission, il y a beaucoup de négociations. Quand on regarde un peu ce qui se passe, on peut le voir sur LCP, quand on regarde certains débats, enfin, certains travaux… il y a quand même une part de négociation, quoi.
Je ne sais pas si c'est le bon terme, en fait.
Après, on peut dire… Moi, je préfère le mot délibération, mais…
Ah oui, enfin… Négocier, c'est un terme qui… Une loi, c'est fait pour s'appliquer pour tout le monde. Une négociation, on peut trouver un intérêt commun, un intérêt. Mais là, ce n'est pas de l'intérêt. Là, enfin, pour moi, ça… Ça va au-delà d'un, c'est pas un pur intérêt, c'est un fondement, enfin quelque chose qui va plus loin. Donc la négociation, il y a un aspect, chacun tire un peu la couverture à lui. Enfin c'est pas l'esprit d'une loi.
Oui, Guy.
Et quand ça n'aboutit pas, quand la négociation n'aboutit pas, je pense par exemple à un problème de voisinage. Je veux passer à tel endroit et mon voisin ne veut pas. On discute. Eh bien, il faudra un arbitre. Et l'arbitre, ça va être la justice. Donc, à un moment donné, quelquefois, il faut trouver un arbitre pour que cette négociation de liberté puisse s'appliquer. C'est encore un cas particulier.
Oui, en pratique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, enfin, les libertés, par contre, hein, pas la liberté, mais les libertés, elles peuvent s'opposer l'une à l'autre. Quoi. Voilà, la liberté du voisin, la mienne, la liberté de circuler, son droit à la propriété qui est considéré comme une des libertés fondamentales. Les libertés s'affrontent et donc peuvent donner lieu à des négociations. Alors, je voulais revenir sur ce que disait Annie parce que je trouve ça intéressant. En France, on est très marqué par Rousseau et par donc la notion de bien commun et par la notion, en effet, d'intérêt général, par exemple. Qui existerait en quelque sorte. Hein. Chez Rousseau, on trouve une notion presque platonicienne de l'intérêt général. Si on prend dans des pays plus protestants en général, bien que Rousseau était protestant, mais il y a cette notion justement de négociation. On sait très bien que les Allemands, ça ne les choque pas, eux, de dire qu'une loi est un compromis. C'est-à-dire qu'il y a des groupes politiques, comme en plus ils ont un système proportionnel, bah, il y a des groupes politiques qui négocient, puis qui disent, bon, alors d'accord, c'est un peu le problème de la GPA, bon, alors d'accord, on va faire la GPA, mais il ne faudra pas qu'il y ait d'intérêt financier, ou bien que ça soit encadré comme si, bon, chacun vient apporter sa pierre à l'édifice, et en effet, une loi est le produit d'un compromis. En France, on aime bien que la loi représente l'intérêt général. Et c'est très différent comme approche, hein, en effet. Mais l'intérêt général, malheureusement, on se rend compte que ça n'existe pas, quoi. Enfin, en tout cas, enfin, moi, je n'ai pas l'impression, quoi. On voit bien dans une société, il y a des groupes de pression, chacun exprime ses intérêts, ses idées, etc. Et, non, oui, Roger demande, est-ce que ça s'oppose à Rousseau, enfin, cette notion de négociation ? Oui, justement, enfin, chez Rousseau, l'intérêt général, c'est pas vraiment, ce qu'il dit même que c'est pas l'addition des intérêts particuliers. Hein, chez Rousseau, l'intérêt général est vraiment quelque chose qui existe au-delà des intérêts particuliers. Donc, c'est pas quelque chose qui va être négocié entre différents intérêts particuliers. C'est quelque chose qui est un petit peu théorique. Hein, c'est un peu le problème du rousseauisme. C'est pour ça que Rousseau a pu donner lieu à des interprétations un petit peu bizarres. Parce qu'après, il peut y avoir un mouvement politique qui dit « mais moi, je représente l'intérêt général ». On voit ça, il y en a plein, hein, enfin, qui prétendent représenter l'intérêt général. Alors qu'en fait, c'est un peu l'articulation de tous les mouvements politiques qui est représentative de l'intérêt général, puisque ce sont des opinions qui existent dans la société. Bien. Bon, à la limite, hein, s'il n'y a plus de prise de... Parce que comme on n'est pas beaucoup... Vas-y.
La liberté n'existe pas réellement. C'est un concept qui habite dans le pays des coucous, comme dirait Schopenhauer. N'existe pas, c'est véritable, en vérité. Donc, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'avais une idée, ah oui, la liberté, elle est seulement dans notre tête. Et je crois que c'est Gilles, peut-être, va nous retrouver la citation. La liberté, c'est la colombe qui loge dans notre tête, ou quelque chose comme ça. Gilles va sûrement nous retrouver la citation. Ouais. C'est d'un poète, je ne sais pas, c'est pas d'Éluard.
Non, j'ai d'autres citations en tête, là, celle-là, non.
Pour répondre, je pense que la liberté, elle existe ou pas selon la définition qu'on prend. C'est un peu le problème de ces mots très chargés, mais qui n'ont pas d'existence physique, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est des mots, c'est un peu des idées au sens. Et donc forcément, selon la définition qu'on va leur donner, c'est ce qu'on disait un peu au début, hein, Sartre, il a résolu le problème en disant « si, de toute façon, on est libre ». Quoi qu'on fasse, qu'est-ce que soit la situation, on est libre. C'est ontologique. Sartre, c'est une liberté qui est ontologique. On est libre parce qu'on fait des choix. Et donc, tant qu'on a des choix à faire, et il y a toujours des choix à faire, on est libre. Alors que d'autres disent, c'est la fameuse, enfin, c'est ce qu'on disait au début, hein, sur l'opposition entre une liberté qui est définie par une absence de contrainte ou une liberté qui est définie par la capacité à faire des choix dans une situation donnée. Pour le coup, là, je serais un petit peu sartrien. Je pense qu'en effet...
En fait, Sartre reprend Kant. Il dit, c'est pas, nous sommes libres, et nous sommes libres de nos choix, et nous sommes d'autant plus responsables de nous-mêmes, parce que si nous n'appliquons pas ces choix, eh bien, nous sommes irresponsables. Et il reprend la formule kantienne. Il est kantien, en fait.
Au début, il l'est un petit peu. Enfin, après, c'est le problème de Sartre. Hein, c'est qu'après, il a évolué. Bon, mais oui, mais chez Kant, c'est plus la liberté par l'exercice de la raison. Quoi. On est libre quand on est, justement, oui. quand on exerce sa raison.
Et chez Sartre, c'est plutôt l'esprit existentialisme.
Voilà.
Nous sommes les choix que nous avons faits. On connaît cette réplique par cœur.
Tout à fait. Voilà. Je pense pas que Kant aurait pu dire que on est libre en prison, par exemple. Alors que Sartre dit qu'on était libre pendant l'occupation. Hein, donc c'est pour ça. Je pense que chez Kant, il y a quand même, on est quand même à l'époque des Lumières. Donc, on est libre si on a la capacité, la possibilité, la capacité à pouvoir exercer sa liberté de penser, etc. Au XVIIIe siècle, la liberté la plus importante, c'était la liberté d'expression. Enfin, clairement, on sent que c'est vraiment la liberté d'expression et la liberté du commerce. Enfin, c'est vraiment les deux, la propriété et puis la liberté d'expression. C'est les deux grandes libertés au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, non, alors ça s'est complexifié. Mais chez Sartre, oui, enfin, en tout cas, le Sartre de l'être et le néant et de l'existentialisme, c'est en effet, comme tu dis, c'est la liberté de devenir, d'être son propre projet. Mais sachant qu'on est quand même dans un environnement donné. Sartre ne nie pas l'importance. Il ne dit pas pour qu'on me donne tous les moyens. Dans cette liberté-là, il n'y a pas de revendication. À dire, il faut me donner les moyens de faire ce que je veux, etc. De toute façon, voilà. Comme pendant l'occupation, okay, il y a les Allemands, on est libre de s'engager ou de devenir collaborateur. Voilà,
chez Sartre, c'est de soi avec soi.
C'est ça. Mais dans la société, malgré tout. Hein, c'est pas, voilà, c'est, encore une fois, l'occupation par les Allemands nous donne le choix de devenir résistant, de collaborer avec l'occupant ou de ne rien faire et de continuer à se débrouiller, à faire sa petite vie. C'est la réalité. On a toujours. Alors, c'est sûr que la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est on peut pas. La liberté ne consiste pas à dire moi je veux que les Allemands ne soient plus là. C'est ça. Souvent, il y a cette espèce de confusion qui dit. Moi, je voudrais que le réel n'existe pas, en quelque sorte, puisque le réel me contraint, je voudrais qu'il n'existe pas.
Sartre est responsable de la torture du concept de liberté.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Donc, mais parce que c'est vrai que c'est ce que je disais au début, hein, la liberté vue comme absence de contrainte, on n'arrive à rien, en fait, hein, dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, on n'y arrive pas, il y a toujours des contraintes. Forcément. Il y a des contraintes physiques, biologiques, la vie en société est une contrainte, enfin, etc. Donc, on ne se sort pas. Enfin, par cet angle-là, pour moi, on va nulle part. Quoi. Bon, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Sinon, on peut finir un peu plus tôt, hein, comme on était beaucoup moins. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Roger, est-ce que tu veux faire une sorte de petite conclusion ou chose comme ça, si tu as envie? D'accord, Guy, tu dois partir tout de suite?
Attends, j'ai quelques petites obligations, il reste encore un petit moment avec vous.
D'accord.
Mais je ne vais pas tarder à vous quitter.
Non, là, je pense qu'on va, donner la parole à Gilles, puis après, je ne sais pas si vous vous rendez compte le pouvoir qu'on va avoir, là, hein, 6 personnes, on va pouvoir choisir le sujet de la prochaine fois. Donc, quel pouvoir on a sur la liberté des autres, hein, vous voyez, on n'y échappe pas. Hein. Mais il n'avait qu'à être là. Hein. Ils ont choisi. Hein, donc Gilles, je vais te donner la parole.
Oui.
Tu l'as tout le temps, hein, mais là en particulier.
Mais comme vous avez été court, je vais être un peu plus long.
C'est inversement proportionnel.
On a le temps. Alors, la liberté versus contrainte, restriction. Ce que l'on veut se prend, elle ne se donne pas. Un choix qui a un prix, qui fait des concessions, pas la même pour tous, la vie en société, elle s'arrête ou commence celle d'autrui, elle se gagne, se conquiert, est à tester, délibérer et progresser, et pas à pas, et qui dépend de soi et qui dépend d'autrui. Un art de vivre à découvrir, à inventer, en personne et en face, en collectivité, en dépendance, la liberté d'expression, liberté de conscience, droit de voir, action. Cadre de liberté, bornes à négocier, tableau, la liberté, l'art de le négocier. de voler de ses propres radicales ailes, liberté qu'on muselle, liberté qu'on cisèle. Dans le paradoxe, la contradiction, comme une libre adaptation, une adoption, une course de haies, obstacle à surmonter, résistance, combat, propre libération, marche, chemin humain, la libre humanité, libre négociation, libre humanisation. Non négociable humanité, la liberté, condition d'équité, dignité, vérité, de probité, intime, universalité, partage en lien, cordial, convivialité, en marche en même temps, loi, légitimité, de s'affranchir, émanciper, nécessité, de compromis, mais non dite compromission, ne vous résignez jamais, Gisèle Halimi, la liberté d'aimer, le libre lien d'amour, d'amitié en question. La liberté, c'est le plus beau de tous les biens. Un homme né libre ne saurait habiter ailleurs que dans la cité de la liberté. La République de Platon donne le ton, besoin, désir, envie, volonté de ce bien à partager en lien, non négociable bien. L'homme est une prison où l'âme reste libre, Victor Hugo, Alter Hugo, et ne négocie pas sa libre fibre qui vibre, qui l'équilibre, ne se négocie pas. Négociable liberté en rade, qui a peur n'est pas libre, qui est libre fait peur. Jacques Gaillot est libre, libéré de la peur, choisis ton camp, camarade. Enviable, inaliénable, non négociable liberté, j'écris ton nom, élu art de la liberté, le bien nommé. Liberté, liberté chérie, la bien-aimée, de la Marseillaise et de Pierre Madest France, liberté en souffrance. Apprivoiser la mort ouvre à la suprême liberté, nous libère de la hantise qu'elle nous impose, Montaigne, essai. Libre libération de la vie par la vie pour la vie, liberté, liberté chérie, de l'amour, ma chérie, cristallisé Henri. Essai, non négociable liberté, j'écris ton nom. Voilà.
Comment t'écris le nom de j'écris ton nom?
N-O-N.
Je m'en doutais. Espèce de rebelle.
Ouais, fidèle, fidèle rebelle. Voilà.
Bien. Est-ce que donc on va passer au choix du sujet pour la prochaine fois, ou alors attends, est-ce qu'on pourrait, je me souviens même, ah bah oui, non, je les ai pas notés, non, je me disais on aurait pu prendre le sujet numéro 2 qui avait été choisi la dernière fois comme ça.
Oui, justement, mais, je pensais aussi
mais je les ai pas notés parce que moi comme je les note est-ce que quelqu'un s'en souvient du sujet qui était arrivé en deuxième position?
Oui, c'était ex aequo, oui.
Et tu t'en souviens, Alina?
Non, justement, je ne me souviens pas, mais c'était, je pense que c'était Guy qui a proposé.
Oh, mais si c'est Guy, il va s'en souvenir.
Oui.
Absolument pas.
Oh
il a coulé beaucoup d'eau sous le pont.
Tout à fait, oui. Bah ouais, puis là, je les note plus. D'habitude, je les note parce que forcément, le vote se fait différemment. Mais comme là, moi, je les écris directement dans. Ah, ou alors. Ah, c'est dommage, ouais. Éventuellement, sur la vidéo, peut-être. Je sais... En général, j'arrête. J'arrête avant. D'ailleurs, je vais arrêter là parce que c'est plus très intéressant.
Alors, lui, il note tout.